Le journal Nicolas Crozel, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous. Alerte rouge en Grèce et en Turquie. Les deux pays suffoquent et s'embrasent. Les flammes aux portes des maisons et menacent même d'ailleurs une centrale thermique. On fait le point dans un instant. Le jour du pass, le Conseil constitutionnel dira cet après-midi s'il valide le pass sanitaire étendu et la vaccination obligatoire pour les soignants. Vent de fronde chez les blouses blanches à Marseille. Et puis du vert sur les plages bretonnes. Les algues vertes de retour, des associations s'inquiètent pour la santé des riverains.
À 7h50, un point sur la saison touristique à mi-parcours, qui sont les perdants, sur le pass sanitaire aussi pour les expatriés dans des pays sur liste rouge, c'est pour quand ? Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, au micro Inter dans un quart d'heure.
France Inter.
Les flammes aux portes des maisons en Grèce et en Turquie.
Plus de 40 degrés le jour, pas moins de 30 la nuit dans ces deux pays. Et comme souvent quand il y a canicule, les incendies font rage. Des centaines de personnes ont été évacuées à Milas dans le sud de la Turquie. Le feu menace les maisons, je vous le disais, mais aussi une centrale thermique. À Nandlauer, les pompiers ont lutté toute la nuit. Quelle est la situation ce matin ?
Alors, le feu a perdu en intensité à l'aube, notamment grâce aux hélicoptères qui ont arrosé la centrale tout au long de la nuit, mais il n'est toujours pas complètement éteint. Le problème, et il est le même depuis le début de ces incendies d'ailleurs, ce sont les vents violents, changeants, qui compliquent énormément le travail des pompiers qui peuvent transformer en brasier la moindre étincelle. La préfecture de Moula a fait évacuer une dizaine de quartiers autour de la centrale. Un navire de la marine turque a été mobilisé pour aider les habitants à partir. Selon les autorités, la centrale a été vidée de ses substances explosives, mais le moindre incendie ici menace les stocks de charbon situés à proximité de la centrale, faisant peser le risque d'une grave pollution de l'air. Les mairies des villes concernées, qui sont toutes détenues par l'opposition, appelaient depuis plusieurs jours les autorités à l'aide et dénonçaient le manque de moyens pour combattre les flammes. Le président Recep Tayyip Erdogan leur a répondu lors d'une interview à la télévision hier soir, soutenant que ces mairies étaient responsables de la gestion des incendies dans les zones habitées.
À Nandlauer, à Istanbul, pour France Inter, ces incendies en Turquie qui durent depuis maintenant plusieurs jours ont déjà coûté la vie à 8 personnes. Les paysages sont par endroits dévastés, le ciel assombri. C'est ce que nous raconte aussi cette Québécoise qui vit en Turquie depuis 6 ans, Lynn Bourgeois, prof d'anglais actuellement. Elle est en vacances sur la côte méditerranéenne.
Hier, j'étais en bateau et il y avait un nuage de fumée incroyable. Il tombait des cendres sur l'eau. C'était comme un espèce de paysage apocalyptique. Les chaleurs sont intenses. On parle de 45 degrés plus. Et ça, c'est sans le facteur humidité. Donc, on se réfugie dans les hôtels avec l'air climatisé pour pouvoir passer des bonnes nuits quand même. D'habitude, ici, c'est un ciel bleu impeccable. Et là, c'est vraiment des nuages jaunes de fumée. On se sent pas très, très en sécurité.
Aline Bourgeois, québécoise installée en Turquie, qui répondait à Maxime Tellier. Côté grec, cette fois, la région d'Athènes, mais aussi l'île d'Eubée sont la proie des flammes. Une dizaine de villages et un monastère particulièrement menacés. Là encore, des habitants ont dû quitter leur logement et se sont rassemblés sur les plages.
On saura cet après-midi si le Conseil constitutionnel donne son feu vert au pass sanitaire élargi en France.
Un texte censé entrer en vigueur lundi prochain et qui, s'il est validé par les sages, vous obligera à présenter un QR code valide dans les trains et les avions, dans les bars et restaurants, même en terrasse. QR code encore pour entrer à l'hôpital sauf urgence, voilà qui crispe les soignants. Des soignants remontés aussi contre la vaccination obligatoire. À Marseille, deux manifestations sont prévues ce matin devant l'hôpital Nord et devant celui de la Timone à l'appel du syndicat Sud Santé. Mathilde Vinceneux.
Il est loin le temps des applaudissements, regrette Karim Djebali. C'est lui qui est à l'origine de ce préavis de grève illimité. Le secrétaire général du syndicat Sud Santé de l'APHM précise qu'il n'est pas opposé à la vaccination, mais que les personnels hospitaliers doivent avoir le choix, alors qu'ils luttent déjà depuis un an et demi contre l'épidémie.
Le personnel soignant est fatigué et il a besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on renforce les effectifs, qu'on s'occupe de ses conditions de travail. Il n'a pas besoin aujourd'hui qu'on vienne lui imposer, qu'on vienne lui dire « tu te vaccines ou sinon on te coupe ton salaire ».
Si les soignants refusent l'injection, ils risquent une mise à pied sans salaire. Une sanction très anxiogène pour cet aide-soignant du bloc opératoire. Il en a beaucoup discuté avec ses collègues inquiets.
Sincèrement, ils n'arrivent pas à dormir, à retrouver le sommeil parce qu'ils ont des crédits. Ils se disent « voilà, on se retrouve devant le fait accompli, on n'a qu'un mois ». Ça va les contraindre justement à pousser la porte pour faire autre chose, une reconversion. On aura des démissions, ça c'est certain.
Des démissions pour éviter la vaccination alors que l'hôpital manque déjà de personnel pour affronter la quatrième vague de l'épidémie. Marseille, Mathilde Vince de France Inter.
Marseille, région PACA ou comme en Corse, et désormais en Occitanie aussi, le plan blanc est déclenché dans les hôpitaux. Le plan blanc qui permet de débloquer des lits supplémentaires, de déprogrammer des opérations non urgentes et de rappeler du personnel en congé. Puis la Grande-Bretagne desserre l'étau pour les Français vaccinés. Londres supprime la quarantaine obligatoire qu'elle imposait depuis 3 semaines aux voyageurs pourtant vaccinés en provenance de notre pays. Paris jugeait cette mesure discriminatoire. On parlait de la canicule en Méditerranée. Bien, figurez-vous qu'il a neigé au Brésil il y a quelques jours, une première depuis plus de 60 ans. Certes, c'est l'hiver austral, mais quand même. Parmi les conséquences de ce gel, une flambée des prix du café, a priori sans conséquence pour notre petit expresso en France, car la part de la matière première dans le prix final est très faible. Mais au niveau des marchés mondiaux, dans ce milieu du café, Manuel Ruffez, c'est un événement.
La production mondiale de café se comptabilise en sacs de 60 kilos, c'est l'unité de mesure, et s'établit les bonnes années autour des 150 millions de sacs. Le Brésil en produit 40%. Or, le pays vient de connaître un épisode météo rare, un gel violent et destructeur. Philippe Chalmin, professeur à l'Université Paris-Dauphine et spécialiste des matières premières.
Nous avons eu une fin du mois de juillet qui a été extrêmement froide. Pensez donc qu'il a neigé au Brésil, il y avait du verglas sur les routes et... Alors, c'est difficile à estimer, mais on pense qu'entre 10 et 30% des surfaces brésiliennes de caféiers ont été touchées par ce gel.
Et la moindre saute de production au Brésil a des conséquences sur le marché mondial.
Bien évidemment, ceci remet en cause les équilibres mondiaux, et c'est cela que le marché a immédiatement anticipé en faisant grimper les cours qui sont passés de 1,50$ à 2$ la livre anglaise de 450 grammes.
Et alors que les prix de toutes les matières premières flambent actuellement dans le monde, en raison notamment d'une très forte demande chinoise, ce n'était pas encore le cas jusque-là du café, qui est très peu consommé en Chine.
Manuel Ruffez, qui se veut rassurant, hein, donc je vous le redis, pour le prix de notre dosette en France, qui ne devrait pas beaucoup bouger malgré ses aléas.
Les aléas climatiques, encore, avec le retour des algues vertes sur les plages bretonnes.
La baie de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor, particulièrement touchée, ça gâche les paysages et au-delà, c'est dangereux. Il y a 5 ans, sur la plage de la Grand-Ville à Ilion, un jogger avait été retrouvé mort sur un tas d'algues vertes. C'est à cet endroit précis que de nouvelles mesures ont été effectuées hier par une association. Mesure des émanations d'hydrogène sulfuré, le gaz toxique que dégagent ces algues vertes. Et les résultats sont visiblement édifiants, Lucie Amadieu.
Quelques pas sur les algues vertes suffisent pour que les détecteurs s'affolent.
Donc ce qui veut dire qu'ici, quelqu'un marche, il peut avoir un premier malaise, un évanouissement et il tombe le nez dedans.
Yves-Marie Lelay, le président de l'association pour la sauvegarde du Trégor, tient un détecteur dans sa main et il en a fixé un autre sur sa botte.
On n'est que dans un endroit là, juste au bas de la plage. Si on se rapprochait des tas qui sont un petit peu plus loin, on aurait des taux beaucoup plus importants.
À plusieurs endroits, les détecteurs ont sonné plus longtemps. Ça veut dire que le plafond de 100 ppm, particules par million, a été dépassé. Et à ce niveau-là, les risques pour l'homme sont déjà très élevés, explique Pierre-Philippe, urgentiste à la retraite.
Il faut savoir qu'à partir de 100 ppm déjà, il y a des risques de conséquences pulmonaires et cérébrales, confusion, perte de connaissance. À partir de 250 ppm, on arrive à des risques d'œdème pulmonaire et 500 ppm, coma et décès assez rapide.
Par ces mesures, le militant écologiste Yves-Marie Lelay veut alerter sur les dangers des algues vertes.
Ici, c'est un silence mortel. Est-ce que vous avez vu, monsieur le président de région? Non. Est-ce que vous avez vu un élu à part le maire de Ilion? Aucun élu ne s'intéresse à la situation ici. On attend que les choses passent et puis on va continuer comme avant.
Pour éviter ça, Yves-Marie Lelay va envoyer les données récoltées au Conseil régional de Bretagne.
Lucie Amadieu, aux Jeux Olympiques de Tokyo, le combat d'un géant contre lui-même et contre son dos qui le fait souffrir. Kevin Mayer s'accroche dans le décathlon. Le Français a grappillé quelques points dans le lancer de disque. Il continue sa remontada. Dans le saut à la perche, avec un saut à 5,20 m, il reste pour l'instant 4e. Prochain défi, le javelot à 12h15. Autre temps fort de la journée, des Français en demi-finale dans les 3 sports co, handball, basket et volley. Et puis de la musique pour terminer, les passionnés vous le diront, rien ne vaut le son d'un vinyle. Ça craque un peu dans les oreilles, mais c'est ça qui fait tout le charme. Faudrait pas en revanche que ça nous fasse craquer le porte-monnaie. Les 3 principales, Major, Universal, Sony, Warner, ont décidé d'augmenter les prix sur plus d'un millier de références, et non des moindres. Alors certes, quand on aime, on ne compte pas, mais quand même, Cyril Ardo.
Christophe Wally, sa boutique en plein 11e arrondissement de Paris. Des CD, des vinyles jusque sur les murs et depuis quelques semaines, un léger agacement.
Un disque de Billie Eilish qui est vendu 30 euros, il a été vendu 20 euros avant. On va prendre Le bébé dans l'eau, Nevermind de Nirvana, disque qui a une trentaine d'années. On l'a vendu sur les 5 dernières années entre 12 et 20 euros, jamais plus. Là, il faudrait le vendre 30 euros. Il faudrait que je vende le Harvest de Neil Young à 45 euros. C'est le disque au prix d'un coffret, il n'y a plus personne.
Au total, environ 1500 disques connaissent une hausse de prix. Argument avancé par les majors, l'augmentation du coût des matières premières.
Le véritable surcoût en sortie de l'usine de pressage, c'est environ 15-20%.
Pourtant, les augmentations de prix vont souvent bien au-delà et sont plus ou moins importantes selon les titres. Les majors évoquent des décisions prises par les maisons mères aux États-Unis et affirment que les hausses les plus importantes se justifient par des pochettes particulières, complexes à fabriquer par exemple. Reste qu'en magasin, le résultat est sans appel. Selon les disquaires, les ventes sont en chute libre.
Les services commerciaux d'Universal ont mesuré de juin à avril, ça a basculé en avril, ces nouveaux tarifs, une chute des ventes de 40% en France. Les 20-35 ans qui ont renouvelé générationnellement cette clientèle n'ont pas de budget sans limite, ça c'est pas vrai.
Et Christophe Wally l'affirme, si les majors refusent de revenir sur ces hausses de prix, il vendra à la place plus de disques de labels indépendants.
Voilà ce qu'il faut. Il faut peut-être penser quand même à changer le saphir de la platine de Cyril Ardo parce que ça craquait un petit peu là sur la fin du reportage.
Merci Nicolas Crozel pour le journal. Dans un instant, l'édito éco, restez avec nous sur Inter.